Bonjour et bienvenue. Alors, pour commencer, j'aimerais qu'on parte d'une observation qui a l'air de rien comme ça, mais qui est assez fascinante.
Ah oui, je vous écoute.
Prenez deux mots tout simples, une auto et un oiseau.
D'accord. Auto, oiseau.
À l'oreille, le son O est identique, on est d'accord?
Oui, phonétiquement, c'est la même chose. C'est une rime presque parfaite.
Voilà. Et pourtant, à l'écrit, c'est une autre histoire. D'un côté, on a AU, de l'autre, E, AU. Alors la question est simple, pourquoi cette complication? C'est un peu le mystère qu'on va essayer de percer aujourd'hui.
C'est une excellente question. Et en fait, cette histoire de O et O, c'est emblématique de toute l'orthographe française.
Ah oui?
Bah oui. Contrairement à l'italien ou à l'espagnol, où en gros une lettre égale un son, le français, lui, a une orthographe qu'on appelle historique. L'écriture, elle ne fait pas que noter le son.
Elle fait plus que ça.
Beaucoup plus. Elle sert de mémoire fossile du mot. Chaque graphie, que ce soit O ou O, c'est comme un petit artefact archéologique. Ça nous raconte une histoire.
Une mémoire fossile, j'adore l'image. Ça change tout. Ce n'est plus une règle de grammaire barbante, c'est une enquête.
Exactement.
Alors, commençons l'enquête. Sur le terrain, si on regarde un peu tous les mots qu'on a sous les yeux, il y a une tendance qui se dégage très très nettement. Le O, le duo AU, on dirait qu'il a son territoire bien à lui.
Absolument. C'est la règle d'opposition la plus fondamentale. O est, on va dire, le graphème par défaut pour ce son O quand il est en position initiale ou médiane.
Au début ou au milieu du mot, voilà. Pensez à audace, autographe, ou au milieu. Aux chaussures, épaules, mauvais. Ils suivent tout ce schéma. Historiquement, d'ailleurs, ce O vient souvent tout droit du latin. C'est la forme la plus ancienne, la plus basique. D'accord, donc O, c'est la fondation. La version originale qu'on place au début ou au milieu. Mais alors, d'où sort cette construction bien plus baroque, ce trio O-E? Si O faisait le travail, pourquoi créer une nouvelle forme? Et surtout, pourquoi est-ce qu'on la trouve presque toujours à la fin des mots?
Ah, c'est là que ça devient passionnant. Ce trio O-E, il n'est pas apparu comme ça par magie. Ce n'est pas arbitraire.
Ce n'est pas un académicien qui s'est levé un matin en se disant « Tiens !»
Non, pas du tout. C'est le résultat d'une évolution très lente de la langue, une évolution phonétique sur plusieurs siècles. La clé de l'énigme, elle se trouve dans un suffixe latin très courant.
Lequel ?
Le suffixe « ellum ». Il servait à former des diminutifs, à désigner quelque chose de plus petit.
D'accord, « ellum ».
Par exemple, en bas latin, un petit château, c'était un « castellum ».
Ok, « castellum ». Mais le lien entre « ellum » et « o » n'est pas évident, là, tout de suite.
Non, il faut suivre les étapes. En ancien français, ce « ellum » latin a d'abord évolué en « l ». Donc, notre « castellum » est devenu « chastel ».
Ah oui, « chastel ».
Un petit oiseau, c'était « avicellus » en latin. C'est devenu « oiseau ». On a encore la trace dans « oiseaulet ».
D'accord, jusque-là, ça va. Mais ensuite, il s'est passé un truc majeur. En français, entre le XIIe et le XVIe siècle, la vocalisation du « l ». La vocalisation. C'est-à-dire que la consonne « l » a commencé à se prononcer comme une voyelle.
Exactement. Quand le « l » était en fin de syllabe, juste après un « e », les gens ont peu à peu arrêté de le prononcer « l » pour le transformer en un son « u ».
Ah !
Du coup, « el » a commencé à se prononcer « o ». Chastel, le « l » à la fin, est devenu le son « o ». Et l'orthographe a essayé de suivre. On a écrit « eau », puis ça s'est simplifié en « o ».
D'accord, donc le « e » est resté pour le souvenir et le « o » a servi à noter le nouveau son.
C'est exactement ça. Ce n'est pas juste un costume pour le son « o », c'est la cicatrice d'une transformation de la langue.
C'est fascinant. Donc, quand on écrit « château » avec « eau », sans le savoir, on écrit toute son histoire depuis le latin. C'est fou.
Oui. On révèle une tension au cœur de l'orthographe française. Est-ce qu'on écrit ce qu'on entend ou est-ce qu'on écrit l'histoire du mot? Et le français a choisi l'histoire.
Très souvent, oui.
Ce « e » dans « o », phonétiquement, il est inutile aujourd'hui. Mais il est crucial d'un point de vue « e » étymologique. Il crée un lien visuel entre les mots d'une même famille. Le « e » de château nous rappelle châtelain. Le « e » d'oiseau nous rappelle oiselet.
L'orthographe crée un lien que l'oreille n'entend plus.
Voilà. Le visuel répare ce que la prononciation a effacé.
Ce qui explique pourquoi c'est si difficile, parfois. On ne peut pas juste deviner en écoutant. Il faut connaître cette histoire cachée.
C'est ça. Mais bon, comme pour toute règle, il y a forcément des rebelles. Les sources en citent deux.
étau et préau. Là, on a « au » à la fin. Pourquoi ils ne jouent pas le jeu? Ben, tout simplement parce que leur histoire est différente. Ils n'ont pas le même passeport.
Comment ça?
Ils ne viennent pas d'un mot en « elom ». Étau, par exemple, a une origine germanique. Il n'a jamais eu ce « l » final qui aurait pu se transformer. Donc, il a suivi une autre route. Et l'orthographe a pris le chemin le plus simple, « au ». Et préau? Alors, lui, il est un peu plus complexe. Mais en gros, il a subi une simplification que les autres n'ont pas connue. Ce sont juste des exceptions qui confirment la règle, en quelque sorte. Des mots avec une histoire différente.
Cette complexité, j'imagine qu'elle a dû créer des débats. On a dû vouloir simplifier tout ça à un moment, non?
Oh, constamment. L'histoire de la langue est pleine de tentatives de réforme pour la rendre plus simple, plus phonétique. La dernière grande date, c'est 1990.
La fameuse réforme de 1990.
Oui, et l'une des idées, c'était justement de régulariser ce genre de choses. Mais ces réformes, elles se heurtent toujours à une résistance culturelle énorme.
Pourquoi? On devrait tous être pour la simplicité, non?
Parce que pour beaucoup de gens, toucher à l'orthographe, c'est toucher à l'identité de la langue. C'est effacer ces fossiles dont on parlait. L'argument, c'est que la simplification appauvrirait la langue, qu'elle couperait les mots de leurs racines.
C'est un vrai paradoxe. On se plaint que c'est compliqué, mais on ne veut pas y renoncer parce qu'on perçoit cette complication comme une richesse.
C'est un débat qui n'est pas prêt d'être terminé. D'un côté, il y a l'argument de l'efficacité, de la lutte contre l'échec scolaire. De l'autre, celui de la préservation d'un patrimoine. Et notre O contre O est pile au milieu de ce débat.
Alors, si on voulait résumer la stratégie pour s'en sortir, ce n'est pas juste apprendre par cœur, c'est plus. Développer une sorte d'intuition.
C'est la meilleure approche. Une intuition étymologique. Donc, face à un mot, on se demande 1. Est-ce que le son O est à la fin? Et est-ce qu'il pourrait venir d'un ancien L? Si oui, on parie sur O. Et dans les autres cas, au début ou au milieu, le réflexe, c'est O.
Au début, c'est un effort conscient.
Oui, au début, on réfléchit. On pense à la position, aux familles de mots. Et puis, à force de lire, le cerveau fait le travail tout seul. Il intègre les schémas. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage statistique. Le cerveau est une machine à repérer les régularités.
Et il finit par savoir que château avec un O, ça pique les yeux.
Voilà. L'image mentale du mot correct, c'est château. La lecture, il n'y a rien de mieux pour ça. C'est bien plus efficace que d'apprendre des listes.
C'est dingue de se dire que ce petit détail orthographique, ça nous a mené de l'Empire romain aux neurosciences. Ça montre bien que la langue, ce n'est pas un objet figé, c'est un organisme vivant.
Absolument. Et pour aller encore un peu plus loin, on peut regarder le mot qui désigne la graphie elle-même, le mot « eau », l'eau qu'on boit.
Oui.
Il respecte la règle, il se termine par E-A-U. Mais c'est un mot d'une seule syllabe, il n'a pas vraiment de début ou de milieu. Et son histoire, elle résume tout ce qu'on vient de dire. Il vient du latin « à quoi ».
À quoi ? Alors là, le chemin pour arriver à O a l'air encore plus tordu.
Il l'est. En ancien français, « à quoi » est devenu « Ève ». Puis l'orthographe a changé, c'est devenu « E-E-U » au Moyen-Âge pour noter certaines prononciations. Et finalement, la prononciation s'est simplifiée en un son unique, O.
Mais l'écriture a gardé les traces. Elle a gardé les fantômes des lettres passées. E, A, U. Quand on écrit ce mot de trois lettres pour la chose la plus essentielle qui soit, on écrit en fait un condensé de l'histoire de France. Chaque mot est une capsule temporelle. C'est une perspective vertigineuse. Ça change complètement le rapport à l'orthographe. Ce n'est plus une source d'erreur potentielle. C'est une énigme.
Ce n'est pas qu'une convention, c'est une culture.
Et la prochaine fois qu'on hésitera entre O et O, peut-être que la bonne question, ce n'est pas quelle est la règle, mais plutôt quelle est l'histoire de ce mot. Voilà, qui donne à réfléchir.